Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, comme cela vous a été annoncé dimanche dernier, à l'occasion du 500e anniversaire de la révolte de Luther, nous entreprenons une série de sermons sur le Concile de Trente. En effet, ce triste anniversaire donne lieu de la part des autorités conciliaires à des déclarations et manifestations causant une grande confusion dans l'Église. Le pape François ayant été jusqu'à honorer une statue de Luther au Vatican et la Poste Vaticane venant d'annoncer il y a quelques jours qu'elle va émettre un timbre en l'honneur de Luther. Il est donc important de rappeler à ce sujet la doctrine infaillible de l'Église, définie pour toujours par le Concile de Trente, l'un des conciles dogmatiques les plus importants, qui opposa une digue impénétrable aux erreurs du protestantisme. La première question proposée à l'examen des pères du concile fut celle du péché originel, c'est-à-dire des conséquences du péché d'Adam sur l'humanité. La question est fondamentale, car selon la réponse qu'on lui donne, cela change toute la conception de la vie humaine, que ce soit notre vie individuelle, que ce soit la vie des sociétés. Il ne s'agissait pas d'ailleurs pour le Concile de contrer uniquement les erreurs de Luther, mais de profiter de ce Concile dogmatique pour réfuter toutes les erreurs à ce sujet et rétablir la vérité sur cette question fondamentale. Précisons bien sûr que l'Église s'était déjà prononcée sur la question du péché originel. Elle n'a pas attendu le XVIe siècle. De nombreux documents de papes, des conciles, comme le Concile d'Orange, le Concile de Florence, avaient traité déjà ce sujet. Le Concile de Trente en fera la synthèse et amènera cette doctrine à sa perfection définitive et infaillible. Il établira pour cela un certain nombre de canons ou règles de foi, accompagnées d'anathèmes, c'est-à-dire que si l'on refuse d'y croire, on ne fait plus partie de l'Église catholique. Pour bien comprendre toute cette question, commençons par rappeler ce que fut l'état de nos premiers parents au paradis terrestre et en quoi a consisté leur faute. Tout d'abord, il est important de savoir que nos premiers parents ont été créés en état de grâce et enrichis d'un certain nombre de dons qu'on appelle les dons préternaturels, des dons qui étaient surajoutés à leur nature humaine pour en corriger les défauts et qui étaient au nombre de quatre. Le don d'immortalité que l'homme recevait en mangeant les fruits de l'arbre de vie. Ces fruits empêchaient en effet le corps de se corrompre, et dans le plan de Dieu, à la fin de son existence, l'homme aurait été transféré dans le ciel et son corps glorifié, spiritualisé, sans passer par la mort. Le deuxième don était le don d'impassibilité qui écartait toute maladie et toute souffrance. Ensuite, il y avait le don d'intégrité par lequel l'homme était parfaitement maître de toutes ses passions. Elle ne pouvait absolument pas se révolter, le dominer. Enfin, le don de science qui était propre à Adam en tant que tête de l'humanité. Et il avait pour mission justement à ce titre, et c'est pour cela que ce don lui a été donné, il avait pour mission d'enseigner le genre humain. De génération en génération, se seraient transmis jusqu'à aujourd'hui les enseignements d'Adam. Vous voyez que le premier homme n'était pas cette espèce de singe plus ou moins évolué que présente les manuels de l'école publique athée. Nos premiers parents étaient le chef-d'œuvre de la création. Tout cet ensemble, grâce sanctifiante et don préternaturel, eh bien tout cela établissait nos premiers parents dans ce qu'on appelle l'état de justice originelle, qui consistait en une rectitude parfaite de l'homme entièrement soumis à Dieu. Tout était dirigé vers Dieu, son intelligence et sa volonté obéissait à son Créateur, et à l'intérieur de lui-même, ses passions obéissaient à son intelligence et à sa volonté. Tout était droit vers Dieu. Bien sûr, les hommes devaient, comme les anges, mériter leur salut éternel en prouvant leur amour et leur fidélité à Dieu. Donc, forcément, il y eut une épreuve. Comment pouvait-il prouver cet amour et cette fidélité? Eh bien, en acceptant de ne pas manger les fruits d'un autre arbre que la Sainte Écriture appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mangez de tous les fruits des arbres du paradis, avait dit Dieu, mais ne mangez point du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car au même moment que vous en mangerez, vous mourrez très certainement. Le démon, qui est le menteur par excellence, leur fit croire qu'en mangeant du fruit de cet arbre, ils ne mourraient pas, mais au contraire, ils deviendraient comme Dieu, pouvant décider par eux-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est ce que veut l'homme moderne aujourd'hui, hein. Et ils succombèrent à la tentation. Ainsi tombèrent nos premiers parents. Ce ne fut pas un péché de gourmandise qui était impossible puisque l'homme maîtrisait parfaitement ses passions. Ce fut un péché inouï d'orgueil, vouloir être l'égal de Dieu. Alors, dans un premier canon, le Concile de Trente décrit les conséquences de ce péché sur nos premiers parents, spécialement sur Adam. Vous verrez, ces canons du Concile de Trente sont clairs, sont simples, sont faciles à comprendre, c'est lumineux, c'est pas toutes ces espèces de textes qui sortent depuis le Concile, qui nous viennent de Rome et qui sont incompréhensibles. Citons le premier canon. Adam, le premier homme, ayant transgressé le commandement de Dieu dans le paradis, fut déchu de l'état de sainteté et de justice dans lequel il avait été établi, et par ce péché de désobéissance, il a encouru la colère et l'indignation de Dieu. Et en conséquence, il fut soumis à la mort dont Dieu l'avait menacé. Avec la mort, il s'est rendu prisonnier du démon et sous sa puissance, et il a été changé dans un état pire. Fin de citation. Par ce péché mortel, Adam et Ève ont donc perdu la grâce sanctifiante et les quatre dons préternaturels. Chassés du paradis terrestre et ne pouvant plus y retourner à cause d'un chérubin qui en interdisait l'entrée avec une épée de feu, eh bien nos parents ne pouvaient plus manger des fruits de l'arbre de vie. C'est alors que la mort fit son entrée dans le monde. Vous voyez que la mort est le châtiment du péché. Faut toujours y penser. Ayant perdu par leur péché le don d'impassibilité, Adam et Ève firent venir sur cette terre la souffrance et la maladie. Là encore, la souffrance et la maladie, cela vient du péché du premier homme. Cela ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas se révolter contre Dieu, il faut se révolter contre nos péchés. Ayant perdu le don d'intégrité, nos premiers parents furent soumis à la révolte de leurs passions. En outre, Adam perdit bien sûr la science qui lui aurait permis d'enseigner le genre humain. Mais maintenant, et surtout ce qui nous intéresse le plus, bien sûr nous-mêmes, c'est qu'il faut voir quelles ont été les conséquences de ce premier péché pour l'humanité, donc sur chacun de nous. Commençons par les erreurs. Outre la mort, la souffrance et la maladie que personne ne peut nier, bien sûr, il y a ceux qui disent que la chute de nos premiers parents n'a eu aucune autre conséquence pour nous que la mort, la souffrance, la maladie. Et il y a ceux, au contraire, qui exagèrent les effets du péché d'Adam sur nous. Les premiers, ce sont les Pélagiens, dès le 5e siècle, qui affirmaient que nous ne naissons pas et que nous ne nous sommes même pas conçus pécheurs. Les pères du Concile vont y répondre et ils rendront par là un grand service à l'Église pour les siècles futurs. En effet, pour porter un coup mortel à la religion catholique, pour la détruire, Les philosophes du XVIIIe siècle, avec Jean-Jacques Rousseau, ont nié l'existence du péché originel, prétendant que l'homme était naturellement bon. Et si l'homme est naturellement bon, ben, il n'a pas besoin d'un sauveur, il n'a pas besoin de l'Église, il n'a pas besoin de la grâce pour le guérir. Et comme dit le pape Saint Pie X, le christianisme est alors renversé de fond en comble. Et cette erreur, ne l'oublions pas, est à la base du monde actuel, la base du monde issu de 1789. Et hélas, depuis le Concile Vatican II, les hommes d'Église voulant plaire à ce monde, eh bien, ne rappellent plus la doctrine catholique sur cette question. Quel prêtre aujourd'hui, dans les paroisses officielles, lorsqu'il administre le baptême, dit que ce sacrement efface la tache du péché originel? Quel prêtre aujourd'hui dit encore cela? À l'opposé, l'hérésie pessimiste et désespérante de Luther dira que le péché d'Adam a définitivement corrompu la nature humaine. Pour l'hérésiarque, l'homme n'a plus la capacité de faire le bien et nous ne pouvons que pécher. De nouveaux canons du Concile de Trente établissent la vérité catholique. Lisons le canon numéro 2. Si quelqu'un soutient que la prévarication d'Adam n'a été préjudiciable qu'à lui seul et non pas à sa postérité, et que ce n'a été que pour lui et non pas aussi pour nous qu'il a perdu la justice et la sainteté qu'il avait reçue et dont il fut déchu, ou bien qu'étant souillé personnellement par le péché de désobéissance, Adam n'a communiqué et transmis à tout le genre humain que la mort et les peines du corps et non pas le péché qui est la mort de l'âme, eh bien si quelqu'un soutient cela, qu'il soit anathème, il n'est pas catholique. Le Concile affirme ici clairement que le péché d'Adam a fait perdre à ses descendants la sainteté et la justice, ce qui veut dire que nous naissons tous privés de la grâce sanctifiante et privés de la rectitude dont jouissait Adam avant sa faute, tout orienté vers Dieu. Et c'est ce qu'on appelle justement le péché originel. Après avoir établi la vérité de ce péché, le Concile en donne aussitôt le remède. C'est le canon numéro 3. De remède, il n'y en a qu'un seul. C'est, dit le Concile, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec Dieu, ayant été fait pour nous justice, sanctification, rédemption. Ce mérite du Christ Jésus est appliqué aussi bien aux adultes qu'aux enfants par le sacrement de baptême. Fin de citation. Le canon numéro 4 parle de la nécessité de baptiser les petits-enfants dès qu'ils sont nés. Et contre Luther, qui prétendait que le péché n'était jamais effacé de nos âmes, le canon numéro 5 affirme que les nouveaux baptisés, dit-il, sont immaculés, purs, sans reproche et aimés de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, de telle sorte que plus rien ne les retarde de l'entrée du ciel s'ils devaient mourir juste après leur baptême. Cependant, si le baptême nous rétablit dans l'amitié avec Dieu en nous rendant la grâce sanctifiante, il ne nous redonne pas cette rectitude que possédait le premier homme, c'est-à-dire cette orientation ferme de tout notre être vers Dieu. Le canon 5 dit « Un foyer de péché qu'on appelle concupiscence demeure chez les baptisés. » Oui, après le baptême, notre nature n'est pas corrompue, elle ne l'a jamais été, mais elle reste blessée par ce péché que nous avons reçu à notre conception. Notre intelligence a du mal à trouver la vérité. Notre volonté est désorientée, elle se laisse facilement attirer par les faux biens que lui présentent le monde et Satan. Nos passions sont difficiles à maîtriser, nous en faisons tous l'expérience. On voit bien qu'il est là, le péché originel, on voit bien qu'on est blessé. Le péché originel laisse en nous une faiblesse native. Mais il n'est pas une tendance invincible au mal. Il n'est pas une corruption de notre nature, comme le prétendait Luther pour excuser sa vie immorale, et il en profitait pour pécher d'autant plus. Ce foyer de péché, dit le Concile, n'est pas proprement un péché. c'est une faiblesse après le baptême. On peut bien sûr se poser la question, pourquoi le baptême n'enlève-t-il pas notre fragilité native? Pourquoi est-ce que finalement notre Seigneur n'a pas institué par le baptême pour nous remettre dans l'état d'Adam? Eh bien, dit le Concile, pour le combat spirituel. C'est celui qui aura dûment combattu qui sera couronné dans le ciel. La vie est un combat spirituel, que nous ne menons pas tout seuls, bien sûr. Notre Seigneur a institué les autres sacrements pour nous permettre de le mener, parce que sans sa grâce, nous ne pouvons rien. Le Concile va terminer avec la Vierge Marie, c'est une belle conclusion. Le Concile dit, il n'est pas dans son intention d'inclure dans ce décret qui concerne le péché originel la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Voilà, le Concile a dit que le péché d'Adam avait éclaboussé toute l'humanité en disant, attention, quand on a dit toute l'humanité, on ne pensait pas à la Mère de Dieu. Voilà. On pourrait dire, ils n'en disent pas plus. Non, non, le Saint-Esprit n'a pas voulu que le Concile dise davantage. Le Saint-Esprit attendra la grande négation du péché originel par la Révolution pour lui opposer la définition du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX. Professer l'Immaculée Conception, c'est professer que la Vierge Marie a été préservée de toute souillure dès le premier instant de sa conception en vue des mérites futurs de Jésus-Christ. Donc c'est reconnaître à la fois la faute originelle, puisqu'on dit qu'elle en a été préservée. C'est reconnaître la réhabilitation de l'humanité par notre Seigneur. C'est reconnaître la nécessité de l'Église et de la grâce et la nécessité de nous tourner vers Notre-Dame pour sortir du péché. En résumé, proclamer l'Immaculée Conception de Notre-Dame, c'est rétablir tout le christianisme. C'est ce qu'a fait Pie IX en face des erreurs de la Révolution et du monde moderne. Nous continuerons dimanche prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.